géographie, 6h en temps universel, 1h à Washington. Le journal avec Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la grand-messe des conservateurs américains qui a débuté hier.
Trumpistes et leur soutien réunis à Washington pour le CPAC, grande convention annuelle, l'occasion de célébrer notamment le démantèlement de l'administration menée par Elon Musk. La Russie a toutes les cartes en main pour conclure la guerre en Ukraine. Les mots de Donald Trump alors que Moscou poursuit ses avancées dans l'est du pays. Reportage dans les alentours de Pokrovsk, soumis à une pression maximale. Deuil et émotion en Israël. Aujourd'hui, les corps de 4 otages, dont ceux de 2 enfants, doivent être remis à leur famille. Une épreuve pour toute la société, vous l'entendrez. Et puis, il était considéré comme l'un des pères du cinéma africain, Souleymane Cissé, décédé hier à l'âge de 84 ans, le réalisateur malien qui avait triomphé avec son film Yélène.
Aux États-Unis, déjà un mois d'euphorie pour les partisans de Donald Trump.
Alors que le président a prêté serment il y a tout juste 30 jours, les conservateurs américains se retrouvent à Washington jusqu'à samedi pour le CPAC, une convention qui doit être l'occasion de célébrer notamment le démantèlement de l'État fédéral avec son allié Elon Musk. Reportage dans la capitale américaine avec David Thompson.
Retraitée venue du Texas, Suzanne résume le sentiment d'enthousiasme général partagé par les partisans de Donald Trump croisés dans les allées de la CPAC de Washington.
C'est Noël tous les jours, c'est ce que je me dis en me réveillant. Même si la moitié des réformes ne voit pas le jour, c'est génial.
La CPAC, cette grande kermesse annuelle entièrement dédiée au culte de Donald Trump, ses partisans sont encore plus galvanisés qu'à l'accoutumée, tous émerveillés par son bilan. Grand-mère du Delaware, Robin se réjouit du démantèlement en règle de l'État fédéral qu'elle préfère appeler l'État profond et dont les fonctionnaires seraient selon elle corrompus, inutiles et inféodés aux démocrates.
On a voté pour élire le président, on n'a pas voté pour élire l'État profond, et pourtant ce sont eux qui dirigent notre pays.
Et selon cette designeuse d'intérieur retraitée, Elon Musk serait l'homme de la situation.
Je ne peux pas imaginer meilleure personne pour faire ce travail. C'est l'homme le plus riche du monde. Il est comme Trump. C'est un businessman.
Et Donald Trump promet de redistribuer aux Américains 20% de l'argent économisé par les coupes budgétaires d'Elon Musk. Nathalie, retraitée elle aussi, compte beaucoup sur ses retombées.
L'argent de nos impôts a été détourné. J'ai de la famille qui est âgée et cet argent pourrait être utilisé pour ces gens qui sont en fin de vie pour qu'ils n'aient pas à vivre avec seulement 2 000 $ par mois.
Après un mois, la Maison Blanche. Le bilan de Donald Trump comble autant ses partisans qu'il tétanise l'autre Amérique, celle qui n'a pas voté pour lui. David Thompson, Washington RFI.
Le CPAC, c'est donc jusqu'à samedi. Donald Trump ne cache plus son alignement de plus en plus clair avec la Russie sur le dossier ukrainien. Le locataire de la Maison Blanche estime ce matin que Vladimir Poutine a, je cite, toutes les cartes en main pour parvenir à la paix dans le pays. Hier, il avait qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans légitimité électorale.
Un début de brouille diplomatique alors que l'Ukraine reste en difficulté sur son front est.
Dans le Donbass, notamment, où la bataille de Pokrovsk est l'un des points les plus chauds de la guerre, l'armée ukrainienne tente de retenir les forces russes qui sont aux portes de cette ville minière d'importance dans la région de Donetsk. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Une allure qui détonne dans cette bourgade assoupie entourée de terrils. Capuche avec des cornes sur vêtements, enceinte portable en bandoulière, Nikita, 17 ans, a été chargée par ses parents de venir chercher un carton d'aide alimentaire devant la mairie.
On réfléchit à partir dans la région de Tchernihiv parce que le front se rapproche.
En cette matinée ensoleillée, les échos des combats qui se déroulent à une douzaine de kilomètres semblent lointains. Des obus ont déjà été tirés sur la localité, mais Tatiana, retraitée, n'a pas l'intention de partir.
On restera ici et advienne que pourra. Pourquoi ils font souffrir les civils? C'est terrible.
Au prix de grands efforts, Anatoly accroche le carton d'aide alimentaire sur son vélo. À 49 ans, cet ancien mineur, malade des poumons, en paraît 20 de plus. Si les Russes venaient jusqu'ici, ils ne partiraient pas.
J'aimerais bien sûr que ça reste ukrainien, mais à vrai dire, j'ai un oncle, des cousines en Russie, et je vous avoue que je ne sais pas qui croire. J'aimerais surtout qu'on vive tous en bonne entente, qu'il n'y ait plus de guerre entre nous.
Le pasteur Igor Yershov supervise les opérations de distribution d'aide alimentaire.
Les 90% de la population restée ici sont des personnes âgées. Quand on leur dit de partir, elles répondent « Mais où irions-nous ?» Et pour elles, peu importe qui de l'Ukraine ou de la Russie sera au pouvoir ici.
Plus que l'éventualité du passage sous drapeau russe, c'est l'envolée des prix qui préoccupe les habitants ou encore le fait que l'autocar ne passe plus que 2 fois par semaine. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Suitley, RFI.
Et à noter que l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine et la Russie, Keith Kellogg, est attendu à Kiev aujourd'hui, réuni hier à Paris pour évoquer ce dossier ukrainien et la question de la sécurité en Europe. Plusieurs pays soutiens de Kiev ont affiché une position d'unité. C'est en tout cas ce qu'assure le président français qui a organisé un deuxième rendez-vous de ce type en 3 jours, Emmanuel Macron, qui pourrait être reçu à la Maison Blanche dès lundi, selon Donald Trump.
RFI 8h05 à Tel Aviv. Israël se prépare à vivre une journée difficile.
Un retour aujourd'hui de 4 dépouilles d'otages, parmi elles celle de la famille Bibas, une mère et 2 enfants de 2 et 5 ans kidnappés le 7 octobre. Le père avait lui été libéré lors d'un précédent échange, il est vivant. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu évoque un jour de deuil pour le pays, sentiment partagé par Chérit. Écoutez-la.
Ça va être une journée très triste, très douloureuse. Il paraît qu'ils ont annulé toutes les pièces de théâtre, tous les shows de chanteurs et choses comme ça. Ça va être vraiment un jour de deuil. De toute façon, on ne fera rien du tout et on sera avec eux. Et pour nous, tous les Israéliens, je crois que la famille Bibas, elle est un symbole de toute cette cauchemar qu'on vit depuis le 7 octobre jusqu'à là. S'il y a la maman Shiri Bibas, j'ai vraiment du mal à parler de cette famille comme ça, avec le petit que c'est, à mon avis, c'est un otage qui était le plus jeune dans le monde, je crois. Il avait à peine 8 mois quand il était kidnappé. Et son frère, 4 ans à peine. Et ce qui est douloureux aussi, c'est que le papa a été relâché il y a 2 semaines. Alors, ça va être un jour de deuil en Israël. Je suis sûre.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier. Pour rappel, 6 otages encore en vie doivent être libérés samedi, les derniers dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve. En échange, Israël doit permettre l'entrée dans l'enclave palestinienne de matériel de déblayage lourd et de maisons préfabriquées. Des prisonniers palestiniens sont également censés être relâchés. Une escalade effroyable en Iran. Les mots des ONG Human Rights Watch et Ensemble contre la peine de mort pour qualifier une hausse sans précédent des exécutions en Iran. Selon un rapport publié aujourd'hui, 975 exécutions ont eu lieu dans la République islamique en 2024. Un chiffre probablement sous-estimé selon les auteurs de ce même rapport.
Le M23 poursuit son avancée vers des zones stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo.
Ce sont les mots de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Alors que le groupe soutenu par le Rwanda s'approche de la localité d'Uvira, la 2e agglomération de la province du Sud Kivu, des pillages auraient eu lieu ces dernières heures. On rapporte également des affrontements entre les FARDC, les forces armées congolaises et leur supplétif civil Wazalendo. RFI, il est 7h08 à Paris. En France, le Premier ministre François Bayrou a affronté avec succès sa 6e motion de censure. C'était hier soir à l'Assemblée nationale. Elle avait été déposée en début de semaine par le Parti socialiste qui reproche au gouvernement de céder aux passions tristes de l'extrême droite. Si elle n'avait aucune chance d'être adoptée, le Rassemblement national avait d'ores et déjà annoncé qu'elle ne la voterait pas. Les échanges ont malgré tout été tendus. Victorien Villaume.
Sauf du côté gauche, un hémicycle quasi vide et le PS ouvre le bal pour dénoncer un gouvernement qui s'éloignerait toujours plus des valeurs de la République. Aïda Adizadeh.
Nous avons entendu votre ministre de l'Intérieur déclarer que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Vous, monsieur le Premier ministre, reprendre les mots de submersion migratoire au lieu de dénoncer la submersion nationaliste.
François Bayrou riposte pendant de longues minutes, d'abord en ironisant.
Et voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire.
Le Premier ministre se défend également sur le fond.
L'immigration, c'est une partie de notre France. C'est une réalité d'enrichissement de notre pays.
Et charge sévèrement le PS.
Vous en arrivez au moment où la guerre d'agression de Poutine fait rage en Ukraine. Voilà une motion de censure pour faire semblant.
Les socialistes quittent l'hémicycle, dénonçant une attitude grossière et les tacles s'enchaînent pendant plus d'une heure. Ici, le député UDR Maxime Michelet.
Votre motion est une flagrante démonstration de votre rupture avec la réalité.
Là, la députée communiste Soumia Bourouard.
L'extrême droitisation du débat public est une pente glissante dans laquelle ce gouvernement a décidé de s'engager.
La motion sans surprise est rejetée et l'impression souvent d'un dialogue de sourds.
Victorien Villaume. Et puis la mort hier d'un monument, presque un mythe du cinéma africain.
Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé à Bamako à l'âge de 84 ans. Premier réalisateur d'Afrique subsaharienne à avoir reçu un prix, celui du jury au Festival de Cannes en 1987. Son portrait avec Isabelle Chenu.
Souleymane Cissé a 20 ans lors de l'indépendance de son pays. Et comme bien d'autres cinéastes africains, il part se former en Union soviétique, apprenant le métier de projectionniste, puis de directeur de la photographie. De retour au Mali, il parcourt son pays, caméra à l'épaule, pendant 3 ans, comme reporter au service cinéma du ministère de l'Information. Sa filmographie militante sera souvent censurée. Son premier long métrage en bambara, Den Musso, la jeune fille, raconte le drame d'une fille mère muette et abandonnée, symbole de l'oppression des femmes. Le film sera interdit au Mali. Pas assez pour le décourager. En 1978, Bahara, le travail, remporte l'étalon d'or de Yenenga. Puis il y aura Figné qui met en scène la révolte d'étudiants maliens contre le régime militaire. En 1995, Wahati retrace la vie d'une enfant noire sud-africaine fuyant l'apartheid à travers l'Afrique. Souleymane Cissé, engagé et humaniste, avait su faire découvrir par ses images la richesse des récits africains.
Isabelle Chenu, et puis elle s'appelle Gisèle Pape et fait partie de la nouvelle scène électro-française avec Disquette, un deuxième album réjouissant. C'est Disquette, c'est loin d'être une arnaque, Chantal Leroux.
Disquette, clin d'œil à une invention technologique devenue très vite obsolète, pose la question « Quel futur voulons-nous ?» Dans cet album solaire, dansant, poétique et engagé, Gisèle Pape pose un regard lucide sur un monde qui se fracasse, où l'argent détruit terres et âmes. Elle évoque avec humour les questions de genre et d'identité, à coups de ritournelles entêtantes qui pourraient bien devenir des hymnes féministes. « Nous ne sommes plus de jolies roses, mais des fleurs sauvages prêtes à piquer. Méfie-toi, jardinier !» Passionnée de son, fan absolu de Laurie Anderson, Gisèle Pape a fait appel à l'américain Ash Workman pour mixer son album Electropop. Résultat, un subtil équilibre entre morceaux dance floor et ballades intimes.
Sur la rive, extrait du deuxième album de Gisèle Pape, à retrouver dans le choix musical à 7h52, temps universel, Marion.
RFI 7h13, à Paris, c'était le journal de Pierre Boudias. On passe à présent au sport. Avec vous, Antoine Grenier, en football, le verdict des barrages de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé offre au Real le choc face à Manchester City.
Mbappé, tout feu, tout flamme, 3 buts pour lui, vous n'êtes pas content, triplé, le tout premier de sa carrière madrilène en Ligue des Champions, pour une victoire 3-1 du Real face à des Citizens privés d'Erling Haaland et qui n'auront pas pesé, si ce n'est sur le but de Nico à la 92e. Mais pas de quoi gâcher la joie de Mbappé et des madrilènes.
C'est bien d'être dans une bonne dynamique, mais il faut continuer et chercher à s'améliorer à chaque match. Au Real Madrid, c'est facile d'être performant tous les mois, mais le plus important, c'est de maintenir ce niveau tout au long de la saison. Mon objectif est simple, progresser chaque jour, chaque semaine, chaque match. Je vais tout faire pour être encore meilleur que contre Gérone et pour le prochain match. Nous devons continuer sur cette lancée. À Leverkusen ou l'Atlético, ce sont 2 matchs difficiles. Après, nous voyageons beaucoup, avec beaucoup de matchs. Ce serait mieux de jouer à 20 minutes d'ici et ce sera un match difficile dans tous les cas. Les deux équipes sont bonnes et nous devons batailler pour l'emporter.
Kylian Mbappé en VO et avec Pierre Chaperon.
Mbappé dont l'ancien club, le Paris Saint-Germain, s'est également qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions et avec la manière.
Au-delà de la démonstration, victoire 7-0 au retour, un essai à rien après un succès 3-0 à l'aller. Un but toutes les 9 minutes et demie entre la 20e et la 86e, ouverture du score de Barcola. Puis Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Seni Maiulu ont ajouté le leur. Kvisha Kvaratskhelia, auteur de son premier but avec Paris en Ligue des Champions. champion et qui salue le sérieux de son équipe.
C'était incroyable avec cette belle ambiance dans le stade. Gagner 7-0 contre Brest, ce n'est vraiment pas facile. Je pense que l'on a su se créer une multitude d'occasions, en plus d'être assez efficace devant le but pour marquer. Nous sommes fiers d'avoir réalisé ce type de performance devant notre public. C'est magnifique de battre Brest 7-0. C'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'était un match facile, mais pas du tout. On a beaucoup travaillé à l'entraînement. Le match n'a pas été simple. On se devait d'être prêt et de tout donner sur le terrain.
Kvicha Kvaratskhelia avec Sofiane Amazian. En huitième de finale, le PSG pourrait affronter Liverpool ou le FC Barcelone. Autre qualifié à l'issue de ces barrages, le Borussia Dortmund, auteur d'un nul 0-0 contre le Sporting, et le PSV Eindhoven qui a dominé la Juventus 3-1 après prolongation.
Et c'était une belle soirée foot hier et il y en a encore aujourd'hui du football. Antoine, place au barrage, retour de la Ligue Europa cette
avec
fois.
Un suspense total dans le choc du début de soirée après leur nul 1 partout du match aller, l'AS Rome accueille le FC Porto. 8 rencontres en tout dans ces barrages avec notamment un Ajax Amsterdam plutôt tranquille en théorie face à l'Union Saint-Gilloise après son succès 2-0 en Belgique la semaine dernière.
En Angleterre et de 24 pour Mo Salah.
24e but pour l'Égyptien qui était buteur face à Aston Villa en match avancé de la 29e journée de Premier League. Une ouverture du score qui n'aura pas suffi à faire gagner Liverpool qui doit se contenter d'un nul 2 partout et de 8 points d'avance en tête de la Premier League. En attendant le match d'Arsenal face à West Ham, ça sera samedi.
Le journal des sports d'Antoine Grenier. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, l'économie, on revient sur ce mois de présidence de Donald Trump. Un mois qu'il est à la Maison Blanche avec son cortège de décrets, de déclarations aussi qui mettent la planète sous tension. Il y en a eu tellement des mesures en 30 jours qu'on peut déjà faire un point là-dessus. Car Stéphane, à peine investi, Donald Trump est immédiatement passé à l'action.
Oui, avec la signature de dizaines de décrets portant sur tout un tas de sujets. 67 décrets d'après NBC News. Et pour beaucoup, il faut le dire, s'il est question d'économie et de finances, on va retenir surtout celui-ci, l'imposition de droits de douane pour tout produit qui vient du Mexique et du Canada à hauteur de 25% sur taxe qui, sur le papier, aurait dû entrer en vigueur le 1er février dernier.
Et bon, là, on est le 20 et ce n'est toujours pas le cas.
Pas pour le moment, non, puisque quelques heures avant l'entrée en vigueur de ce décret, et le Canada et le Mexique ont trouvé un accord avec les États-Unis. Le projet a donc été suspendu pour un mois, sujet qui est d'ailleurs un marqueur très fort de son début de mandat. Donald Trump estime que les concessions faites par les voisins mexicains et canadiens sont un triomphe pour lui. Mais dans les faits, d'un point de vue purement économique, pas grand-chose n'a changé sur cet aspect précis.
Et en ce qui concerne la Chine, Stéphane, pendant toute sa campagne, Trump promettait des tarifs douaniers de 60% à l'encontre de Pékin.
Pareil, Donald Trump a revu ses ambitions à la baisse. Si Washington a repris la guerre commerciale qu'il oppose à Pékin, ce n'est qu'avec l'application de 10% de droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises. Riposte immédiate de la Chine qui a mis en place une hausse des taxes sur les importations d'hydrocarbures aux États-Unis et une enquête contre Google. Le président américain entend aussi imposer toutes les importations d'aluminium et d'acier de 25% de taxes, et cela qu'importe la provenance, entrée en vigueur prévue pour le 12 mars. Beaucoup d'idées donc, Marion, mais pour le moment, peu de mise en pratique.
Et pourtant, certaines mesures de Donald Trump ont déjà eu des effets très concrets.
Il y a notamment la mise sur pause du programme USAID, à l'agence américaine pour le développement, qui est le plus grand donateur au monde. Des centaines d'ONG et d'associations humanitaires sont concernées. Chaque année, ce sont près de 40 milliards de dollars qui sont distribués partout sur la planète.
Et puis Stéphane, on peut retenir aussi la mise en place du DOGE.
Le département de l'efficacité gouvernementale mené par Elon Musk avec un objectif taillé à la serpe dans la fonction publique. Un plan déjà concrétisé par la fin des périodes d'essai, par l'interdiction du télétravail aux fonctionnaires et par un plan de départ volontaire. Environ 75 000 agents ont décidé de partir en étant payés jusqu'à la fin du mois de septembre. Ça représente environ 3% des fonctionnaires fédéraux. On retiendra aussi que la Banque Centrale Américaine a laissé ses taux inchangés. La Fed attend de voir les effets des politiques menées par Donald Trump avant de déterminer quel mouvement adopter concernant les taux d'intérêt. Bref, pour le moment, Marion, Donald Trump se montre à la manœuvre et occupe, il faut bien le dire, l'espace médiatique. Mais il reste difficile de comprendre ces stratégies économiques puisque leurs conséquences pourraient être négatives pour les Américains, ce qu'ils ne souhaitent pas. Et puis il s'est beaucoup exprimé, à l'oral comme par écrit, il a beaucoup menacé, mais adopter le bluff comme stratégie de long terme pourrait trouver ses limites.
Aujourd'hui, l'économie. Merci Stéphane Genest, à demain. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud. On revient sur les enjeux de ce pré-sommet avec notre grand invité international. Édouard Dupénoit, vous recevez Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et enseignant à l'Université du Cap.
Carlos Lopez, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accorder de votre temps ce matin sur Radio France Internationale. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 se retrouvent à compter d'aujourd'hui et pour deux jours à Johannesburg en Afrique du Sud. Ou du moins presque tous, puisque celui dont on parlera peut-être le plus, c'en est un qui est absent. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne fait pas le déplacement. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette absence ?
Oui, c'est assez significatif, mais je crois qu'il faut ajouter le fait que le secrétaire d'État au Trésor, Scott Benson, a aussi décidé de ne pas venir à Johannesburg pour la réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales. Donc nous avons vraiment une position claire de la part des États-Unis par rapport à l'Afrique du Sud, mais aussi par rapport au G20. Je pense que l'absence, elle est vraiment le coup dur qu'on attendait pour pouvoir effectivement à partir de maintenant voir le G20 comme en perte de vitesse et sans pouvoir influencer les grandes politiques internationales et les systèmes de coordination qui ont été mis en place depuis la crise de 2008-2009, la crise financière de 2008-2009.
Pour vous, c'est un camouflet pour le G20 tout entier et pas exclusivement destiné à l'Afrique du Sud, qui a été l'un des premiers pays directement visés par une mesure spécifique de rétorsion prise par le nouveau président américain. Il faut y voir un camouflet pour le G20 lui-même.
Oui. Je pense qu'effectivement, on s'attendait à ce que les relations avec l'Afrique du Sud soient un peu tendues, surtout à cause du fait que l'Afrique du Sud a été au devant de la scène par rapport à Israël et l'invasion de Gaza. Et donc, je pense qu'on s'attendait à un certain nombre de rétorsions de la part des États-Unis. Et effectivement, la présence d'Elon Musk à côté de Donald Trump ne fait qu'augmenter les possibilités que l'Afrique du Sud soit traitée en priorité, pas nécessairement du point de vue positif. Mais, cela dit, l'absence du G20 est significative au-delà de l'Afrique du Sud, parce que c'est le seul mécanisme multilatéral qui permet un certain nombre de coordination. Et donc, je pense que on avait vu déjà dans la présidence brésilienne une certaine hésitation de la part des États-Unis, et ça, c'était avant la présence de l'administration actuelle. Et donc, c'est une perte de vitesse qui vient depuis un certain temps.
Vous parlez de la perte de vitesse du G20. Il y a quand même un certain nombre de ministres des Affaires étrangères qui vont faire le déplacement. Je pense à Sergueï Lavrov, qui sera avec ses homologues chinois, avec ses homologues indiens. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu aussi sur place. Ça reste quand même un mécanisme ou un groupe qui réunit un certain nombre de décideurs haut placés.
Une chose, c'est la présence physique. Une autre chose, c'est ce que ce mécanisme a permis de développer depuis un certain temps en termes de décision. Et donc, vous savez que on a traversé pendant la pandémie une période très difficile du point de vue de la coordination économique et aussi du point de vue du commerce. Et nous avons senti que le G20 ne répondait plus avec la même vigueur, avec les mêmes caractéristiques qu'auparavant. Donc, la Russie, sa présence est un peu, disons, un jeu politique. Elle ne peut pas être présente dans d'autres mécanismes de coordination. Donc, elle a tout intérêt à y être. Les pays du BRICS, donc, ils seront en solidarité avec l'Afrique du Sud, comme ils étaient auparavant avec les deux présidences qui étaient aussi des BRICS, des pays avant l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. Mais nous savons que la plupart des lignes de continuité que les gens n'acceptent pas de vérifier avec toute la vigueur qui s'impose devant nous, sont des lignes de continuité d'une érosion du multilatéral, et donc le G20 en fait partie.
C'est-à-dire que pour vous, ça ne fonctionne plus. Est-ce que si je paraphrase ce que vous dites ou si je poursuis votre pensée, c'est presque une réunion ou un sommet qui n'est plus utile, qui n'a plus son utilité?
Vous savez, le G20, c'est maintenant 300 réunions par an. avec disons une dispersion complète où on négocie dans le track principal, c'est-à-dire celui des Sherpas, pendant toute l'année en communiqué. Et donc ce communiqué donc revient à quelques paragraphes qui sont controverses, soit parce qu'on va ou pas dire telle chose par rapport, par exemple, à la guerre de l'Ukraine dans le cas actuel. Et donc, nous n'avons pas vraiment l'impression, et c'est aussi vrai pour toutes les négociations en termes de climat, toutes les négociations en termes de commerce, l'impression qu'on avance. Donc, il y a énormément d'énergie qui est dépensé pour quelques paragraphes et pour arriver quelquefois à des consensus complètement artificiels qui ne produisent pas grand-chose.
Mais est-ce que pour un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui a pris la présidence du G20 il y a de cela un peu plus de deux mois, au mois de décembre dernier, ce n'est pas une des occasions les plus importantes ou une des meilleures occasions pour avancer son propre agenda? On sait que le pays est particulièrement sensible, notamment à la justice climatique, et que le continent africain ayant été touché ces derniers mois et ces dernières années par des catastrophes de grande ampleur, est-ce que c'est pas la meilleure occasion pour Pretoria d'avancer dans son agenda et dans ses volontés de meilleure justice climatique?
Je n'ai aucun doute que pour l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique du Sud, c'est extrêmement symbolique d'avoir la présidence du G20, d'autant plus que c'est la première fois que cela se fera avec la présence de l'Union africaine comme participant à part entière. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour pouvoir montrer un nouveau visage de l'Afrique et pouvoir avancer un certain nombre de priorités, notamment celles que vous avez mentionnées, mais aussi des aspects beaucoup plus concrets, comme par exemple les priorités que l'Afrique du Sud a données aux minerais critiques qui vont être effectivement essentiels pour que l'Afrique puisse se transformer, l'industrialisation verte, enfin un certain nombre de priorités qui ont été annoncées par l'Afrique du Sud et qui sont des priorités africaines. Mais ce que je constate, c'est que effectivement, ce boycott de la part des États-Unis vient dans un contexte qui est géopolitiquement très tendu. Et donc, c'est un peu raté déjà avant même de commencer.
Et tout ça est en fait essentiellement cosmétique à vos yeux, c'est-à-dire que ça ne pourra, à votre sens, déboucher sur rien de concret et rien de consensuel.
Sauf que cette tension, elle sert à quelque chose. Elle sert à montrer que effectivement, il faut changer de méthodologie. On voit la même chose dans les discussions climatiques. Les COP qui réunissent 5000 personnes ne marchent plus. Et donc, les gens sont là en train de discuter chaque fois des montants qui sont complètement faramineux et qui ne correspondent pas à la réalité, puisque personne n'a l'intention vraiment de faire sa partie et donc on ne progresse pas.
Et que le multilatéralisme ne fonctionne plus. Je suis obligé de vous interrompre, Carlos Lopez. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin sur Radio France Internationale.
Merci, c'était un plaisir.
Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et enseignant à l'Université du Cap avec Édouard Le Pénoat. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se retrouvent donc aujourd'hui pour un pré-sommet à Johannesburg en Afrique du Sud avec donc un grand absent, on l'a rappelé, l'américain Marco Rubio. Restez avec nous sur RFI dans un peu plus d'une minute, c'est le retour de l'actualité africaine.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Demain,
enfants et écrans, quelles limites fixer?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Les crises géopolitiques, économiques, écologiques et sociales que nous traversons nous angoissent et nous secouent. Pourtant, nous devons réagir. Alors, quel sens donner à sa vie dans un monde bouleversé? Rassurez-vous, nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Le foncier est un enjeu important dans le partage des richesses et la réduction de la pauvreté. Mais il est aussi parfois source de conflits entre les communautés. En Côte d'Ivoire, des mécanismes sont en place à travers l'Agence foncière rurale avec pour objectif de mieux gérer les terres.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.